J'ai été associé quasiment dès le début de la mise en œuvre de la Convention parce que l'Algérie a été parmi les premiers pays qui ont ratifié la Convention. J'étais à l'époque le directeur du patrimoine en Algérie et le délégué algérien au comité, M. Deradji, était venu me voir en me disant « Alors maintenant que la Convention est entrée en vigueur en 1976, il faut commencer à travailler pour préparer des dossiers. » Donc, pendant la période de 1976 jusqu'en 1982, j'étais à Alger et j'étais en charge du patrimoine. J'ai donc commencé à préparer des dossiers et à l'époque, j'ai invité Raymond Lemaire, qui était à la fois le grand spécialiste de l'ICOMOS, le président de l'ICOMOS, mais aussi un ami personnel que j'avais rencontré à Louvain. Et j'ai invité également Léon Pressuire. Et on a organisé un séminaire en Algérie pour parler de comment préparer des dossiers pour cette nouvelle convention, qui pour nous était vraiment une nouveauté. On connaissait la convention de 70, on connaissait aussi la convention de 54, mais la convention de 72, ça a été vraiment une nouveauté pour nous qui étions jeunes archéologues en charge de l'étude et de la conservation du patrimoine. Et nous avions immédiatement senti que, conformément aux articles de la convention qui parlent des éléments exceptionnels, de valeurs exceptionnelles, on s'est dit, en Algérie, nous avons de grands sites de l'époque préhistorique, nous avons de grands sites de l'époque romaine, nous avons des grands sites de l'époque islamique. Je crois que c'est l'occasion de les faire connaître et de les faire reconnaître. Et la deuxième chose, dans mon expérience personnelle en Algérie, j'avais eu beaucoup de difficultés sur le site de Tipaza parce que le ministère du Tourisme algérien a lancé une opération de construction d'hôtels sur tout le littoral algérien, y compris à proximité de Tipaza. Et on avait confié ce projet à un architecte français très connu qui s'appelait Jean Pouillon. Et Jean Pouillon avait fait un projet qui touchait quasiment le site archéologique. Donc ça a été pour moi aussi une occasion pour défendre le site, pas seulement au niveau national, mais aussi pour donner un poids au niveau international. Donc, j'avais tout de suite commencé avec le site de Tipaza et on m'a envoyé, parmi les experts qui sont venus regarder le site, il y avait Gaël de Guichin de l'ICROM, Léon Pressuire et quand on a commencé à travailler sur ce site, ça a été un peu notre test. D'abord parce que c'est un site qui est à côté d'Alger, il est à 60 km de la capitale. C'est un site qui a été fouillé par les Français depuis le 19e siècle. Et c'est un site où moi, j'ai eu la chance de découvrir en 1968 jusqu'en 1973 une nouvelle nécropole avec un élément paléochrétien très fort et assez symbolique. Donc, c'est un peu sur cette base que nous avons préparé des dossiers et que nous avons travaillé directement sur des dossiers, mais nous n'avons pas fait à l'époque ce qu'on appelait la liste indicative. Donc entre 1976 et 1982, avec le petit staff que j'avais au niveau du département des Antiquités, nous avons présenté ces projets et nous avons eu, il faut le reconnaître, l'appui des scientifiques et des connaisseurs du patrimoine comme Raymond Lemaire et Léon Pressuire. Voilà pour l'histoire, disons, de mes relations en ce qui concerne la Convention de 1972 et le fait que, pour l'Algérie, je dois dire que, avec l'aide de Raymond Lemaire et de Léon Pressuire, j'étais peut-être un peu en avance parce qu'à l'époque, on avait déjà présenté des dossiers avec la délimitation, ce qui ne se faisait pas encore de façon précise, avec la zone de protection. Et ça nous a été utile en Algérie pour essayer de défendre ces sites contre le développement urbain, contre le mouvement spéculatif qui s'est déclenché, comme cela arrive souvent dans les pays qui émergent après une période coloniale. Il y a eu un boom de la construction. Et vous avez vu que après coup, on a même eu des problèmes à Tipaza même. J'ai essayé de défendre aussi le site de Tipaza en étant à l'UNESCO, parce que vous le savez, dès janvier 1982, à la demande de M. Bolla, je suis venu à l'UNESCO. Et donc, j'ai gardé les meilleurs contacts avec mes collègues en Algérie, et j'ai essayé, à partir de l'UNESCO, avec l'aide de M. Naghvi, qui a été directeur du patrimoine, et moi, j'étais chef des activités opérationnelles à la division du patrimoine, avec Mme Reidel, qui a été ma directrice après le départ de M. Naghvi, j'ai constamment continué à suivre les sites. Donc, je suis arrivé en janvier 1982. Quand je suis arrivé, le travail que m'a confié M. Bolla et surtout M. Naghvi, c'était les activités opérationnelles sur un certain nombre de sites et plus particulièrement sur la Médina de Fès, qui était à la fois un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, mais aussi l'objet d'une campagne internationale de sauvegarde. Donc, on m'avait confié, quand je suis arrivé, le suivi opérationnel des campagnes internationales de sauvegarde. Et c'est ainsi que je me suis occupé d'un certain nombre de sites, et en particulier de Sanaa, au Yémen. Ce que j'ai essayé de faire, c'est justement d'apporter la vision opérationnelle qui vient s'ajouter à la reconnaissance du site sur la liste du patrimoine. Et on a essayé de développer, alors là c'était avec M. Naghvi, avec Mme Reidel, mais aussi avec l'ICOMOS. L'ICOMOS m'a beaucoup assisté pendant toute cette période, Michel Parent, Raymond Lemaire, notre ami sri-lankais aussi, Da Silva. Donc tous les présidents de l'ICOMOS ont été associés à la préparation de ce qu'on appelait le plan d'action pour les campagnes internationales de sauvegarde. On a essayé de développer une vision qui, à l'époque, était une vision novatrice avec un plan d'action intégré. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas simplement de s'intéresser aux monuments et à la restauration physique du monument, mais de s'intéresser à l'aspect global de ces sites qui étaient des ensembles urbains. Donc, on a travaillé à la fois en s'appuyant sur la Convention de 72, mais aussi sur la recommandation de Nairobi de 76 et sur la charte de l'ICOMOS de Toledo-Washington de 1987. Et on a développé ce qui était devenu à l'époque un modèle, des modèles de plans d'action intégrés avec une approche pluridisciplinaire. Quand Mme Reidel a quitté l'UNESCO en 1991, elle m'a proposé pour être son successeur, parce que quand elle a assisté à la réunion de Carthage, elle n'en pouvait plus, elle va vous le dire, elle s'est confiée à moi, non seulement comme directrice, mais comme amie, et elle m'a dit, écoutez, il faut que vous preniez la succession. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Bernd von Drost pour préparer, puisque vous vous souvenez, on préparait les réunions du comité une année. C'était la division des sciences écologiques qui préparait la réunion. Une autre année, c'était la division du patrimoine. Et en 1992, le directeur général nous a réunis. Donc, j'ai été nommé, fin 91, directeur de la division du patrimoine culturel. Donc, vous avez vu que j'assistais à toutes les réunions du comité qui étaient organisées par le centre et que je faisais rapport sur la partie site culturel et en particulier le Cambodge, encore, Jérusalem, etc. Pourquoi ? Parce que ces dossiers restaient encore traités par la division du patrimoine culturel. Ce n'est qu'en 2004 que nous avons de nouveau eu... Alors ensuite, fin 1998, M. Bernd von Drost est parti à la retraite. C'est l'année où M. Matsoura a été... a présidé le comité du patrimoine mondial à Kyoto. Juste avant Kyoto, nous avons eu une grande exposition à Washington sur le patrimoine culturel que j'avais organisé avec Bernd von Drost et avec Ismaël Serhadjeldin, qui était à ce moment-là vice-président de la Banque mondiale. Quand nous avons terminé cette exposition, que M. Mayer est venu inaugurer avec le président de la Banque mondiale, M. Wolfensohn, M. Mayer m'a pris par l'épaule et m'a dit « Bon, alors à partir de maintenant, vous allez être directeur du Centre du patrimoine mondial. » Mais je lui ai dit « Mais M. Mayer, je suis déjà directeur de la division du patrimoine culturel. » « Eh bien, ça fait rien, vous ferez les deux. » Quand M. Matsoura a été élu directeur général de l'UNESCO en novembre 1999, il m'a appelé et il m'a dit « Écoutez, Mounir, je voudrais changer tout le senior staff de l'UNESCO, c'est-à-dire tous les ADG. Je vais vous demander d'être ADG par intérim en attendant de désigner un ADG pour la culture. » Et je lui ai répondu, je peux le dire devant lui encore aujourd'hui, « Monsieur Matsoura, est-ce que vous savez que je suis directeur du centre, directeur de la division, et vous me demandez aussi d'être ADG culture ?» Et il m'a répondu, très gentiment, comme à son habitude, « Mais Mounir, vous aurez trois chapeaux. » Voilà comment je me suis retrouvé, à la fin de l'année 99, avec trois bureaux. Moi, je crois que l'un des premiers objectifs, c'est cette reconnaissance de l'importance du patrimoine au niveau mondial. Cette reconnaissance vue de la part de quelqu'un qui a été sur le terrain, parce que moi j'étais 17 ans sur le terrain, je sais que le passage d'un site naturel ou culturel, du statut de site inscrit dans une liste nationale à un statut de site inscrit au patrimoine mondial, a changé beaucoup la mentalité des décideurs dans les pays du tiers-monde. Alors moi, je fais la distinction entre les pays qui ont déjà une réglementation, qui ont une expérience, qui ont des lois, etc., et les pays en Afrique, dans le monde arabe, dans certains pays d'Amérique latine ou d'Asie, où cela n'existait pas. Ça, c'est, je crois, le premier objectif. Je crois que, de ce point de vue, la Convention de 72 a apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait. Ça n'existait pas, cette reconnaissance. Le deuxième point, je crois que la Convention a apporté une infrastructure, elle est insuffisante, mais elle a apporté une infrastructure pour la conservation des sites culturels ou naturels. Et l'objectif de la Convention, c'était l'objectif majeur, c'était quand même la conservation. Il y a des sites qui sont de très grande valeur et qu'il faut préserver. Le danger, par contre, que je vois, que j'ai signalé dans une communication que j'ai faite au Conseil de l'Europe, c'est qu'on est peut-être en train de créer une approche du patrimoine à deux vitesses. Alors, dans les États, encore une fois, dans les États où il n'y a pas cette longue tradition de protection et de sauvegarde, on vous dit, ah ben écoutez, on a préservé le site, il est sur la liste du patrimoine mondial, mais les autres, on les oublie un peu. Ils n'ont plus le même poids. Or, la Convention dit bien que ce n'est pas parce qu'un site est reconnu sur la liste du patrimoine mondial que le reste du patrimoine n'a pas de valeur. Je crois que ça, c'est un point important. Je crois que c'est là où nous devons mettre un peu plus l'accent auprès des États membres en expliquant que, bien sûr, la Convention met en valeur et met en lumière un site. Mais en même temps, il ne faut pas oublier les autres sites. Le troisième objectif de la Convention, c'est de faire en sorte qu'il y ait des cadres compétents pour gérer le patrimoine. C'est la gestion. Alors, c'est là où j'ai la chance maintenant d'être dans un organe consultatif de la Convention, l'ICROM, et je me rends compte combien le travail de formation est absolument indispensable. C'est-à-dire, là, je ne défends pas l'ICROM, je défends la formation. La formation me paraît l'élément essentiel que la Convention doit continuer à mettre en avant en disant « il faut que les gens soient formés ». Et je sors d'un déjeuner avec Bandarine, vous le savez, où on a parlé d'une stratégie que le centre est en train d'essayer de mettre en place avec des centres régionaux, parce que tout ne peut pas se faire à partir de Paris, c'est évident, et que si certains pays prennent un peu la responsabilité de créer des centres où la formation devient le moteur. À ce moment-là, vous avez l'assurance que ces sites seront préservés à l'avenir. Donc, il y a une donnée importante qui est prise en compte aujourd'hui par certains pays. Et moi, je suis vraiment satisfait de voir que les Chinois m'ont invité avec le centre, avec l'ICOMOS, avec la UCN, à Shanghai, à l'université, et on a commencé déjà à faire des cours en Chine, non seulement pour les Chinois, mais ils veulent avoir aussi une approche régionale pour l'Asie-Pacifique en matière de sites du patrimoine mondial. Et ils ont créé ce qu'ils appellent le WITR, World Heritage Institute for Training and Research Asia-Pacific. Donc, je considère que ça, c'est le troisième objectif. Donc, vous voyez, c'est un peu dans ce sens que la Convention a apporté quelque chose de nouveau dans les objectifs nationaux de la conservation du patrimoine.
Maintenant, on va parler de la liste du patrimoine mondial. Il y a maintenant 878 sites sur la liste. Alors, c'est une question à deux, trois points de vue. Le premier, c'est de qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des intuitions sur ce qui était dans la tête des gens qui ont créé la convention du nombre de sites idéal, si vous voulez? Est-ce qu'on a trop de sites? Est-ce qu'on n'a pas assez de sites? Et est-ce qu'on devrait mettre un cap sur le nombre de sites sur la liste?
Moi, j'en ai parlé beaucoup avec Gérard Bolla, avec Michel Baptiste, avec Michel Parent, avec Raymond Lemaire, donc tous ceux qui s'intéressent au patrimoine. Et chaque année, on se posait des questions. Alors, qu'est-ce qu'on va, jusqu'où peut-on aller? Donc, la question, c'est le chiffre de 1000, on l'avait déjà, je crois même me souvenir que dans un de mes discours au comité du patrimoine, je l'avais déjà indiqué il y a 5 ou 6 ans, j'ai dit, est-ce qu'il ne faut pas commencer à réfléchir? C'est un chiffre symbolique, simplement. Mais il faudrait, de mon point de vue, et d'après tous les contacts que j'ai avec les experts qui travaillent avec nous, à l'UNESCO, à l'ICROM, à l'ICOMOS et à la UCN, je pense qu'il faudrait, à un moment, arriver à un chiffre qui soit gérable. Parce que nous sommes en train... On peut aller, bien sûr, on peut continuer, 1500 jusqu'à 2000, mais je crois qu'il faut aussi se poser la question sur les critères qui ont été à la base de cette convention. Cette convention, elle n'a pas dit qu'il fallait inscrire tous les sites du monde. Il fallait inscrire les sites, en français on dit insignes, highest value. Alors, est-ce que nous allons continuer à faire ces inscriptions? Est-ce qu'il ne serait pas bon, d'ores et déjà, maintenant qu'on est à 878, de commencer à se poser la question sur la base d'études, parce qu'il ne faut pas le faire de façon aléatoire. Est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer à réfléchir sur quelles sont les régions, les zones, les pays où on a vraiment oublié quelque chose de très important? Donc, je crois qu'il faut commencer par un premier travail préliminaire. Et je crois qu'à un moment, il faudra réunir le comité, l'Assemblée générale, et sur la base d'une étude, dire on ne peut pas continuer en permanence. D'abord parce que ça devient de plus en plus lourd. Vous savez, j'ai Mechthild devant moi, on a travaillé beaucoup ensemble, et je sais ce que représente pour elle et pour l'équipe qui travaille sur l'Europe le fait de préparer les rapports, les SOC, le State of Conservation. C'est un travail énorme et qui devient de plus en plus difficile parce qu'il est normal que le comité aujourd'hui exige plus d'informations, il est normal que les organes consultatifs deviennent plus exigeants sur les informations, sur le contrôle de ces informations, mais à ce moment-là, une semaine ne suffit pas à aller à travers... tu as combien de sites actuellement en Europe?
440.
Vous imaginez? 440 SOC. C'est impossible, techniquement. Ou alors, il faudrait passer une année à passer en revue les SOC. Donc, je crois qu'il faut que les États membres aujourd'hui, qui financent le travail du centre, qui financent ces opérations, il faut qu'ils se rendent compte que ce chiffre ne doit pas être indéfini et qu'à un moment, il faudra établir une limite. Mais il faut éviter de le faire de façon péremptoire. C'est-à-dire, moi, je ne dirais pas 1000. Je dirais, il faut d'ores et déjà commencer à penser à une limite en faisant des études aussi bien sur le patrimoine naturel, sur le patrimoine culturel, sur le patrimoine mixte, en disant voilà, c'est les régions qu'on a oubliées ou sur lesquelles nous n'avons pas regardé suffisamment. Moi, je suis historien et archéologue, mais j'ai été aussi j'ai eu la chance d'avoir une formation de géographe. Et je pense qu'il ne faut pas calquer les situations politiques sur les situations culturelles. Et donc, il faut éviter que les pays s'imaginent que parce que l'Italie ou l'Espagne ont plus de 40 sites, il faut qu'ils aient aussi 40 sites. Voilà. Donc ça, c'est un travail aussi de sensibilisation à faire auprès des pays et donc de faire en sorte que les listes indicatives soient revues. Mon sentiment personnel est vraiment ne pas donner l'impression qu'on veut bloquer à un moment certains pays qui ont la sensation qu'ils n'ont pas été encore suffisamment reconnus. Et c'est vrai que dans certains pays d'Afrique, moi j'ai beaucoup travaillé avec la Namibie, avec le Mozambique, avec le Swaziland, etc. Et ce sont des pays qui, le Lesotho par exemple, qui n'avaient aucun site inscrit. Alors que j'ai moi-même organisé un séminaire international sur le patrimoine culturel au Lesotho. Mais à l'époque, il n'y avait même pas de division, rien, pas une structure qui s'occupait du patrimoine. C'était les missions religieuses qui avaient créé un petit musée à Maseru et rien d'autre. Alors maintenant, la sensibilisation existe et donc il y a, par exemple, ce que moi j'ai vu, il y a des sites préhistoriques avec des peintures et des gravures rupestres de très grande qualité au Lesotho. Il serait dommage que l'on fasse un moratoire maintenant et qu'on dise, bon, on n'inscrit plus parce que certains de ces pays, peut-être, auraient la chance, dans les prochaines années, d'avoir aussi leur patrimoine reconnu.
Mais une des dernières questions, c'est la question des décisions du comité, soit sur les politiques, soit sur les enjeux particuliers qui ont vraiment affecté ou été des précédents pour changer la mise en œuvre de la Convention.
Bon, moi, je crois que c'est surtout à partir de la création du centre lui-même que la Convention est vraiment apparue comme étant un instrument qui a permis de changer, sur le plan de la mise en œuvre, le travail concret. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de principes ont été concrètement mis en œuvre et je pense en particulier au fait que le comité a demandé à ce qu'il y ait des plans de gestion qui soient présentés en même temps que la présentation des dossiers. Donc, on ne s'est plus contenté, disons, de la valeur exceptionnelle. Les pyramides, c'est exceptionnel. Le Parthénon, c'est exceptionnel. Mais on veut aussi savoir comment ils sont gérés. Donc, ça, c'est sur le plan de la mise en œuvre, l'introduction dans les orientations et la recommandation de présenter des plans de gestion accompagnant les dossiers d'inscription, je pense que ça a été un élément fondamental de changement dans l'application de la Convention. Alors, le deuxième aspect, c'est que la Convention de 72 a permis aussi d'intervenir dans les situations très difficiles, très complexes, dans les situations post-conflictuelles. Et là aussi, l'exemple de l'Irak, l'exemple de l'Afghanistan. Vous savez que pour l'Irak, par exemple, en 2003, il n'y avait pas de gouvernement. C'était Bremer qui était gouverneur de l'Irak en mai, quand je suis allé. Et quand j'ai demandé au service des antiquités s'il voulait que le comité prenne en compte le site d'Achour qui risquait d'être noyé par le projet de barrage, c'est une décision qui a été prise vraiment pas au niveau traditionnel. Donc là, la mise en œuvre de la Convention a un poids très important dans les situations post-conflictuelles qui a permis, je crois, de sauvegarder le patrimoine. L'exemple aussi des Bouddhas de Bamiyan. Vous savez qu'on s'est battu comme on a pu pour éviter la destruction des Bouddhas, mais le fait que le comité les ait immédiatement classés sur la liste du patrimoine et sur la liste du patrimoine en danger, c'est un symbole et ça permet, je crois, de donner une... Je crois que ce sont les images fortes que les gens gardent. Moi, je crois que globalement, la Convention a rencontré beaucoup de succès. Hein. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu une adhésion très forte au concept de patrimoine mondial, le fait aussi, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant sur les indicateurs économiques, beaucoup de pays ont quand même bénéficié du label patrimoine mondial. Alors, c'est vrai qu'il a fait une moyenne et il a dit que la moyenne, pour le moment, c'est B, mais dans beaucoup de pays, et en particulier l'Italie, la France, utilise le label patrimoine mondial. Vous savez, quand la route Saint-Jacques de Compostelle a été classée, ça a créé un mouvement touristique et une affluence incroyable. Donc, il y a un impact assez fort. Je ne parle pas du Cambodge, où encore, quand je suis allé en 1992 et encore où j'étais en décembre 2008, c'est plus la même chose. Il y avait 3 000 visiteurs en 1992 par an. Il y en a 2 millions. Alors, moi, je crois qu'il y a de grands succès. Il y a eu des difficultés. Moi, je me rappelle que la crise que nous avons eue avec l'Australie pour le kakadu et l'Australie qui a dépensé des millions de dollars a montré les limites de la Convention, que nous ne pouvions pas vraiment intervenir et que le comité s'est trouvé un petit peu paralysé malgré tout le battage médiatique, etc. Il y a eu des limites. Nous sommes confrontés, je ne sais pas comment le dossier de Dresde va être traité, mais nous sommes, là aussi, nous sommes dans une situation où le comité se trouve un peu en difficulté. Un échec qui me paraît le plus flagrant et qui m'a fait vraiment, personnellement, j'ai été très touché, c'est qu'on ait sorti un site, non pas le comité, mais qu'un pays ait décidé de sortir un site. Et pour moi, ça, je l'ai perçu personnellement comme nous n'avons pas réussi. C'est que là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce qu'on n'a pas été suffisamment persuasif? Est-ce que nous n'avons pas suffisamment parlé avec les autorités, etc.? Et je me souviens, parce que j'ai suivi toute la négociation, le pays a insisté, malgré l'appel de comité, en disant « Non, non, nous voulons sortir le site de la liste du patrimoine mondial ». Je crois que ce sont là les limites.